Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Je m'appelle Sabina Sokol, j'ai 32 ans, je suis créatrice de contenu digital, j'habite à Paris et je suis fiancée à Florian.
Et tu te maries au mois de...
Et je me marie en juin 2021.
Félicitations.
Stay tuned.
Plus de 600 000 abonnés à son compte Instagram, une moue à la bardeau. Mais ce qui m'a le plus attiré, c'est son sourire permanent et son authenticité qui transparaît à travers ses très jolies photos. En la regardant, en la suivant sur les réseaux et en me renseignant un petit peu sur elle, j'ai eu le sentiment qu'elle n'était pas seulement une influenceuse mode comme les autres, qu'elle avait des choses à dire et des choses à faire au-delà du virtuel et du silence. Et en poussant la porte de son charmant appartement pour enregistrer le podcast, je me suis rendu compte que mon instinct ne m'avait pas trompé. Avec elle, on a parlé de son parcours scolaire, de son expérience au sein des plus grandes rédactions françaises, de sa passion pour l'écriture, la mode et la photographie, de sa vision des réseaux sociaux, de la manière dont elle vit sa notoriété, de son quotidien, de sa routine sportive ultra soutenue, de ses projets futurs et notamment du lancement de sa marque de vêtements, de la youtubeuse Léna Situation, de Cancel Culture et de notre beau pays, la France. Allez, j'arrête de parler et on entre direct dans le vif du sujet avec l'histoire de ses parents roumains qui arrivent en France.
Venus et qui ont rencontré mes parents et ils les ont invités à venir faire une visite en France, à Paris et à Saint-Cloud.
D'accord.
Donc mes parents sont venus en visite. Ils n'étaient jamais sortis de la Roumanie auparavant parce que sous Ceaușescu, en fait, tu pouvais pas sortir. Tu n'avais pas de passeport, tu n'avais pas de papier, tu n'avais rien du tout. Donc c'était une grande découverte. Mmh. Et pendant ce voyage, mon père, qui est quand même quelqu'un de... Il parlait déjà français parce qu'il avait appris le français à l'école. Et il est... c'est un personnage assez charismatique et assez intelligent, cultivé, tout ça. Et malgré toutes leurs différences culturelles, il a réussi à se faire ami avec une personne qui était le préfet du Calvados à l'époque.
Ouais.
Je sais pas, ils ont grave accroché.
Ok.
Et voilà. Et donc ce monsieur leur avait dit, si vous venez vous installer en France, vous m'appelez, moi je vais vous aider. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que c'est ce qu'ils ont fait.
Ok.
Donc, ils ont pris leur bagage et ils sont venus s'installer en France. Et ma mère parlait pas français. Et en fait, effectivement, il les a aidés. Il les a aidés à s'installer, à trouver un logement, du travail, etc. En Normandie, du coup.
Mmh.
Et mon père a fait des petits jobs. Et puis, il a lancé son entreprise qui fonctionne très bien maintenant depuis 25 ans. Il s'est lancé, il a fait une réorientation.
C'est dans quoi ?
C'était à l'époque, c'était dans l'imprimerie. En fait, c'est une entreprise de... C'était dans l'imprimerie, mais maintenant, c'est aussi de la mécanique. Mais
d'accord.
C'est de la remise en état, on va dire, d'outils industriels.
D'accord.
Alors, c'est vraiment...
Ok, je vois très bien. Je te dis que je vois très bien parce qu'en fait, on m'a parlé d'un truc à peu près similaire ce matin. C'est rigolo.
Et donc, ma mère était ingénieure en mécanique.
D'accord. Ok.
Et elle a appris le français en France.
Waouh, mais c'est courageux quand même parce que t'as pas de frères et sœurs ?
Non, je suis unique.
D'accord.
Mais moi, je pourrais jamais faire ça. Enfin, quand j'y pense, je pense que je me rendais pas
changer
compte.
Changer de pays comme ça.
Non.
Bon, après, on peut se remettre aussi dans le contexte post-Ceaușescu, peut-être envie de d'autres choses. Enfin, je sais pas.
Ah, mais totalement.
On a peut-être pas le même état d'esprit aujourd'hui.
Je pense que c'était pas du tout la même vie.
Bah, c'est ça.
Et on avait le même âge à peu près en plus. Mm-hmm. Et honnêtement, pour moi, c'est une success story. Enfin. Pas que pour moi, c'est une success story vraiment tout court parce que c'est typiquement des gens qui viennent de 0. Tu peux pas venir de plus bas que ça en fait.
Mais c'est clair.
Qui s'en sont plus que très bien sortis. Vraiment.
Moi je suis très admirative de ce genre de profil. Mes parents c'est pareil.
Donc, ah ouais
enfin mon père principalement, mais ma mère est française, mais mon père il est né ailleurs. Mais c'est vrai que moi cette force en fait, tu vois, qui consiste à s'implanter dans un pays, à faire ses preuves dans un pays qui n'est pas le tien, à apprendre une langue et tout, c'est quand même. C'est costaud.
C'est hyper costaud.
C'est des beaux exemples. On va dire que c'est des beaux exemples.
Exactement. Des exemples qui mettent un peu la pression.
Bah, ça met la pression, mais en même temps, l'aspect positif, c'est que ça donne un cadre inspirationnel. Donc,
ouais, totalement.
Bon, voilà. Fabuleux. Bah écoute, du coup, t'as, en termes d'études, on a bien compris que tu avais gagné ta nationalité française en CM2. Et après, tu as fait du chemin quand même parce que tu as fait quelques études. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, tu t'es quand même orientée vers plutôt du journalisme ou quelque chose comme ça.
Ouais. En fait, quand j'ai eu mon bac en 2006 et je ne savais pas quoi faire. Enfin, si, je savais que je voulais faire du journalisme.
Ouais.
Mais je savais aussi qu'il fallait avoir une licence avant d'autres choses, si je voulais en tout cas faire les écoles qui m'intéressaient, qui étaient plutôt des écoles genre CELSA, tout ça, quoi. Mm-hmm. J'avais des grandes ambitions.
Ouais.
Mais en même temps, j'ai toujours été une feignante en cours. J'ai toujours été plutôt l'élève qui a des bonnes notes, mais sans faire grand-chose, quoi. Donc ouais. Ça, franchement, au lycée, ça passe.
Ouais.
Mais en études supérieures, c'est un peu moins passé. Donc, je savais pas quoi faire et je me suis inscrite en droit. J'ai fait 2 ans et j'ai détesté, c'était horrible, c'était la pire période de ma vie. Je me sentais nulle en plus du coup parce que c'était pas du tout mon truc. Et c'est pas que je comprenais pas, je comprenais bien, mais j'arrivais pas à me concentrer pour apprendre.
Oui, c'était pas ton truc.
Le truc, ouais, voilà, j'aimais pas la manière de réfléchir, j'aimais pas l'ambiance, j'aimais rien en fait. Et je savais pas comment j'allais faire en fait. Donc j'avais une phobie, genre je croyais que j'allais finir à la rue sans rien. Enfin, bon, je suis pas du tout extrême. Mais bref, j'étais au fond du trou. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner pour des écoles et tout ça. Et en même temps, j'en avais marre de Strasbourg parce que je voulais absolument aller habiter à Paris. Ça me faisait rêver, la vie parisienne. J'avais déjà des copains et des copines qui y habitaient. Donc voilà, je voulais les rejoindre, vivre ma vie, sortir, pas aller tout le temps dans les mêmes endroits et tout, quoi. Donc je me suis inscrite dans une école qui s'appelle l'ICAR, qui est une école de communication dans l'art.
Ça dit quelque chose, ouais.
Et c'est là que j'ai fait mes premiers stages dans des magazines. Parce que j'avais pas perdu de vue, en fait, cet objectif.
Parce que c'était ça que t'avais en tête depuis le début, quand même.
Exactement. Ouais. En gros, je m'étais dit, bon, moi, je veux faire mon école de journalisme.
Pour être rédactrice dans un journal de mode ou quelque chose comme ça?
Alors, de base, c'était pas forcément la mode. J'étais plus en
art
mode.
De vivre ou.
J'étais plus tournée vers l'art, je crois. J'avais plus. J'aimais bien l'univers de l'art et ça m'intéressait. Et voilà. J'avais plutôt envie d'être journaliste culturelle. Donc, j'ai fait un premier stage dans un magazine qui s'appelle Art Absolument.
Ouais.
Et j'avais adoré ce stage, c'était trop bien. On était allé à la FIAC, on était allé au Salon du Dessin, on était allé dans plein de foires artistiques et tout. Et puis j'écrivais vachement, du coup, sur des œuvres, sur des expos, sur des choses comme ça. Donc ça m'intéressait vachement. Et ensuite, il a fallu que je trouve un deuxième stage. Et là, par un ami commun, j'ai réussi à rentrer au L.fr.
Canon.
Au web, en 2010. Le truc pas du tout important à l'époque, c'était pas
c'est vrai, ouais.
En fait, donc je suis arrivée dans le L et j'avais une super rédactrice en chef que j'admirais vachement qui s'appelle Armelle Toraval, je sais pas si elle se souvient de moi, mais bon, en tout cas moi
si elle nous écoute,
je l'admirais en fait, elle faisait peur à tout le monde, moi elle me faisait trop pas peur parce que
c'est souvent le cas dans les rédactions féminines quand même.
Ouais, mais je trouvais que je comprenais pas pourquoi les gens avaient peur d'elle. En fait, elle était dure, elle était autoritaire, mais juste. Et clairement, elle maîtrisait son sujet, elle était super pro, elle donnait des feedbacks. Et bref, moi, elle me faisait pas peur du tout, mais j'adorais avoir des feedbacks de sa part et elle m'en donnait, donc j'étais ravie.
Ouais, t'avais l'impression de progresser.
Et oui, clairement. Enfin,
d'être formée et de progresser.
Oui, j'avais l'impression d'être formée.
Ouais.
Franchement, quand j'y repense, après, en comparant avec d'autres expériences professionnelles que j'ai pu avoir, pour le coup, c'était pour moi une expérience hyper révélatrice. Donc j'ai découvert l'univers des magazines féminins.
Ouais, you.
Et là, je me suis dit, mais c'est trop stylé en fait. Il faut que je travaille là-dedans. Mais donc, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à travailler dans la mode.
D'accord.
Mais en même temps, j'adorais la mode, j'avais des blogs. Voilà, j'adorais m'habiller, faire des photos déjà à l'époque de mes looks.
Bah oui.
Donc voilà, c'était pas non plus absurde ou quoi que ce soit, mais c'est juste que j'y avais pas pensé en fait. Je pense que je m'étais pas dit, je pense que je m'étais même pas dit que ça pouvait être accessible en fait pour moi.
Ok.
Je sais pas, ça m'avait pas traversé l'esprit. Bref, trop bizarre.
Non, non, mais c'est intéressant. Mais ça veut dire que quand on y va un peu, pas en dilettante, mais sans trop avoir d'idées préconçues, ça peut marcher quoi.
C'est ça, j'avais pas d'idées préconçues. Mmh. Et de toute façon, pour moi, ce que je voulais faire, c'était écrire. Donc n'importe quel sujet pouvait m'aller quoi, c'était pas
ouais.
Mais bon, donc là voilà, les fashion week, les cadeaux, parce que ouais. C'était, il y avait plein de cadeaux aussi dans les magazines.
Ça a changé maintenant, c'est moins comme ça,
je sais pas. À l'époque c'était enfin voilà, les journées presse, les machins, les distributés tous ces trucs là j'étais là, mais waouh, enfin c'est juste trop
le
stylé.
Paradis,
c'est le paradis. J'avais 20 ans en 2010, non, j'avais 22 ans que j'étais refaite, quoi. Et là, dans ma tête, du coup, je me suis créé un nouvel objectif de vie.
Ouais.
Et je me suis dit, mon objectif de vie maintenant, c'est que je vais être rédactrice en chef d'un magazine féminin. Donc voilà, j'ai toujours eu des grandes ambitions.
Mais non, mais c'est bien, il paraît qu'il faut toujours, tu vois, donc sinon...
De toute façon, ce que je dis toujours à mon mec... Parce que quand il croit, quand je lui dis t'inquiète, on fera ci, on fera ça, machin, il me dit toujours mais non, ça n'arrivera jamais, mais non, blablabla. Et moi je dis toujours que sky is the limit.
Mais t'as bien raison.
Et je me mets raison. Aucune barrière de toute façon, et je m'en suis jamais mis en fait.
Mm-hmm.
Je m'en suis vraiment jamais mis. Parce que si on commence à se mettre des barrières sur des rêves et des ambitions, on fait rien quoi.
Non, non, mais ça franchement c'est un trait commun de tous les entrepreneurs, de tous les gens qui arrivent à leur fin et à leurs objectifs, tu vois. Il vaut mieux que les... Voilà, que l'ambition soit grande de toute façon. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup après, donc après l'épisode, t'es restée combien de temps dans le journal Elle.fr?
C'était 6 mois, je crois.
Ok.
Et donc après, 6 ou 9 mois, je sais plus exactement. Et donc après, j'ai eu mon diplôme de l'ICAR et je suis rentrée en école de journalisme, en master.
Mmh.
Et c'était pas le CELSA, c'était une école privée. C'était l'IEJ.
Ouais.
Bref, on est pas obligé de le dire parce que c'est pas une école de ouf.
On s'en fiche, hein. C'est ce qu'on en fait des écoles, hein, franchement.
Ouais, bon, en tout cas, c'était une école privée. Si, il y avait quand même des cours que j'ai trouvé sympas, genre les cours de radio, tout ça. Enfin, j'ai appris des trucs dans ces cours-là, notamment comment poser ma voix.
Je l'ai appris aussi.
C'est pratique maintenant que je fais plein de vidéos. Et là, bah pareil, le stage, j'ai fait Gradia. C'était très bien.
Mmh.
Et puis ensuite, j'ai fait GQ.
Mmh.
Et là, j'ai adoré l'ambiance de GQ. C'était...
Ah ouais.
Et je suis restée hyper longtemps.
T'es restée combien de temps?
Je suis restée un an et quelques, plus de presque un an et demi.
Mmh.
Là, c'était trop bien, quoi. Vraiment, j'aimais trop. C'était toujours en l'univers magazine, mais pour le coup, c'était plus du tout du féminin. Il y avait quasiment que des mecs. Bon, après, voilà, c'était une autre ambiance, du coup, on va dire. De travailler qu'avec des mecs quand on est une fille, très jeune en plus et tout. Donc voilà, j'ai appris ça. Mais de toute façon, je suis assez coriace. Donc, c'est jamais des choses qui m'ont dérangée. Moi, je me suis jamais... Je pense que... Enfin, je me considère pas féministe dans le sens... Parce que je défends pas la cause ou... Enfin, je suis pas engagée dans cette cause. Mais je pense qu'au fond, je le suis parce que pour moi, je me suis jamais mis de... barrière ou quoi que ce soit, si jamais j'ai remarqué que le fait d'être une femme me mettait en position inférieure, je me suis toujours, toujours refusé ça en fait.
Ouais.
Voilà, j'ai toujours essayé de mettre un coup de pied dans le truc et dire bah non, de quoi tu parles quoi.
Ouais.
Genre c'est.
Ouais.
Donc bon, je m'en suis sortie comme ça, mais c'est vrai que avec le recul, je me rends compte que oui, il fallait quand même être coriace pour survivre entre guillemets dans un milieu très masculin comme ça.
Ouais. C'est pas évident, mais dans les milieux totalement féminins, c'est pas évident non plus. Hein.
Non, non, mais c'est autre chose. Mm. C'est autre chose.
Mm.
Mais c'est surtout qu'à l'époque, j'étais stagiaire, j'avais 25 ans, bon voilà. J'étais.
Oui, c'est sûr. Enfin, bah oui, quand on démarre, c'est pas pareil.
J'étais pas en position de force du tout, et puis je pense que il y a le physique aussi qui fait que sans n'importe quel physique, n'importe quelle personne projette des choses et on s'imagine des choses sur la personnalité de la personne qui est en face de nous à cause de son physique, qui sont souvent fausses.
Ouais.
L'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Et voilà, clairement, une stagiaire blonde de 25 ans, bon. On sait que c'est un cliché, quoi.
Ouais.
Mais bon, toujours est-il que j'ai adoré ce stage qui s'est transformé. Enfin, après, j'ai continué à écrire un peu en free pour eux et tout. Je faisais beaucoup... Enfin, j'étais toujours au web et toujours dans la partie culturelle. Et je faisais des interviews de stars et tout. Enfin, pareil, ça m'en mettait un peu plein la vue, quoi. Et puis, j'écrivais pas mal d'articles... C'était cool. Enfin, je faisais ce que j'aimais. Et donc, mon ambition est restée la même pour le moment. Je me disais toujours qu'il fallait que je trouve un CDI, en fait, dans une rédaction, que je monte les échelons, quoi. Mais c'était dur. C'était très, très dur de se faire embaucher dans des rédactions.
Ouais.
Ça commençait... Il n'y avait pas beaucoup de turnover, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile.
Oh bah, catastrophique, même.
Ouais, voilà. Mais bon...
Enfin, les places sont... Bon, on va pas épiloguer, mais c'est vrai que c'est plus compliqué maintenant, je pense, qu'avant.
Bah en tout cas, c'était franchement déjà très compliqué. Voire limite, j'avais l'impression que c'était inatteignable. Je me demandais comment j'allais faire, quoi.
Ah bah moi, pareil. Hein. Enfin, j'ai été stagiaire pigiste aussi. J'ai très vite lâché l'affaire parce que je me suis dit que ça allait... À un moment, tu te dis, bon bah, j'ai pas d'avenir. Donc, c'est compliqué.
Et puis pigiste, c'est hyper dur. Je l'ai fait pas longtemps. Et j'ai vite compris que c'était pas pour moi.
Bah, moi pareil.
Parce qu'il faut avoir 10 000 idées à la minute, on se les fait refuser, il faut construire limite un sujet avant qu'on dise oui.
Ça paye très mal.
Et tout ça sans être payé.
Ouais.
Je veux dire, on n'est pas sûr qu'il va être pris, quoi. Ouais. Et tout ça pour, 200 balles.
Mais c'est l'avantage de l'époque à laquelle on vit. Je pense qu'il y a une époque de makers, au sens où maintenant, bah, tu le fais toi, quoi. Tu vois, enfin, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui ont une démarche... pour fabriquer du contenu pour eux-mêmes. Enfin, toi, tu le fais très bien. Voilà, c'est l'avantage de l'époque dans laquelle on est. C'est pas pareil qu'il y a, je sais pas, il y a 10-15 ans, où bah, si t'étais pas dans un magazine ou dans une rédaction, etc., t'avais pas du tout de possibilité de l'être. Aujourd'hui, même si tout le monde se prétend journaliste et a une opinion, bonne ou mauvaise, bah, c'est vrai que ça laisse plus de champs ouverts à l'entrepreneuriat rédactionnel, quoi. Enfin, tu vois, ou la création de contenu. Plus facile maintenant qu'avant. Mais donc, du coup, après, t'es partie de JQ ou t'as...
J'ai fait un master, un deuxième master à la Sorbonne, communication. Et c'était un master pro. Donc, on était très peu en cours. On était une quinzaine. Et il n'y avait pas beaucoup de cours. C'était drôle, ce master, parce que, en fait... Mon père voulait absolument que je fasse encore des études, que je fasse absolument une meilleure école, que j'aille à Sorbonne et tout ça. Enfin bref. Ah oui, j'avais postulé à l'IFM et j'avais pas été prise. Mais j'avais postulé à ce master qui était hyper sélectif en me disant je serais jamais prise. Enfin, je serais jamais prise parce que j'ai pas fait la Sorbonne avant. Et voilà, quoi. J'ai pas fait des études de ouf. C'était des assez bonnes écoles, mais c'était pas les meilleures écoles. Bref, j'avais écrit une très bonne lettre de motivation. Donc, ils m'ont prise. Et effectivement, dans le master, il y avait que des têtes, des rats de bibliothèque. Il y avait déjà au moins 5 masters à la Sorbonne, déjà d'avant. Et qui avaient aucune idée de comment faire pour rentrer dans le monde professionnel. Et le master était très tourné là-dessus, comme c'était un master pro. Donc, il y avait des cours de CV, par exemple. Mais moi, j'avais déjà fait 10 stages avant, quoi. Enfin, j'avais pas besoin de cours de CV.
Toi, t'avais déjà bossé.
J'étais déjà. Et en fait, j'étais, entre guillemets, la plus nulle de la classe. Et en fait, ils étaient tous impressionnés un peu par moi parce qu'ils venaient me demander « Mais comment tu fais ? Comment t'as fait pour avoir ça, ce stage-là ? Comment, machin ?» J'ai jamais été pistonnée pour quoi que ce soit. J'ai toujours mis le pied dans la porte pour avoir ce que je veux.
Bah, en général, il n'y a pas 36 solutions, malheureusement.
Exactement, il n'y a pas du tout 36 solutions. Par exemple, pour JQ...
Et moi, je ne crois pas du tout au piston, tu vois. Je crois qu'à un moment ou un autre, ça se retourne toujours contre quelqu'un.
Bah, un piston, finalement, il faut être limite encore plus fort que les autres pour...
Ouais, et puis tu mets la pression...
Que tu veux mériter ta place, quoi.
Voilà, et puis tu mets la pression à la personne qui t'a pistonné. Enfin, tu vois, après, tu rentres dans des jeux un peu compliqués.
En fait, je sais pas, pour moi, c'était entre guillemets simple. Tu fais un CV, t'écris un mail. Si on répond pas, tu réécris. Ensuite, tu réécris.
Ah, moi, j'ai tanné comme une dingue. Hein. Moi j'ai tout eu avec les dents. Hein.
Et voilà, c'est ce que j'ai fait pour plein de choses. Quoi. J'ai réécrit, appelé. Donc, voilà, c'était marrant, ce master. Donc, finalement, j'ai fait le master à la Sorbonne. Mais franchement, j'ai vraiment pas appris grand-chose dans ce master. J'avais déjà tout fait dans mes autres écoles d'avant. Et encore plus appris dans tous les stages que j'ai fait, parce que finalement, j'ai vraiment accumulé beaucoup d'expériences comme ça, quoi. Donc après, bah voilà, j'ai été sur le marché du travail.
T'as fait un passage chez Seihu, non ? Ou c'est plus tard, ça ?
Et oui, c'est ça. J'ai commencé. Bah, je me disais, bon, bah maintenant, faut y aller, quoi. Donc j'ai, pareil, je suis allée au culot chez Society. J'ai fait des petites piges un peu pour eux quand ils venaient de se lancer. Mmh. C'était cool.
Super, Franck Hannes. Ouais. J'adore ce type.
C'était trop cool. C'était une très bonne ambiance. Mais c'est là, enfin là, où je me suis dit, bon, la pige.
Compliqué.
Je suis pas une vraie. En plus, eux, ils sont très reportage et tout. Et moi, je venais du web, j'écrivais 30 news par jour. Enfin, voilà quoi. C'était pas. Je dis pas que je voulais forcément rester que là-dedans, mais en tout cas, j'avais jamais travaillé comme ça et je me suis rendu compte que c'était dur.
Bien sûr.
Et très chronophage et pas assez bien payé. Je voulais quand même gagner un peu plus. Mm-hmm. Et oui, du coup, comme j'étais amie avec l'équipe de Seihu, je suis rentrée chez Seihu. Et là, c'était trop bien, pareil.
On peut peut-être rappeler ce que c'est rapidement. C'est une sorte de magazine digital sur des grands événements parisiens.
Voilà, c'est ça, exactement.
Qui recense un peu les dernières, on va dire, les dernières news du monde de la nuit, de la mode, de l'art, etc. quoi.
C'est ça, exactement. Et puis, ils avaient une rubrique interview, donc je m'occupais de cette rubrique-là.
Sympa.
Donc, c'était très bien. Et puis, voilà, je faisais des petits jobs en free comme ça. Mm-hmm. Et ça n'a pas duré très longtemps. Jusqu'à ce que je me fasse embaucher aux éditions Jaloux. Donc ça y est, j'ai enfin décroché le CDI dont je rêvais, quoi. Le CDI.
C'est dans quel journal ?
Mon poste était social editor, donc je m'occupais de la stratégie digitale.
Okay.
Pour l'officiel, officiellement, mais je le faisais aussi pour Jalouse et l'Optimum.
D'accord.
Donc en fait, c'était vraiment pour les éditions, quoi.
Ok.
Donc voilà, c'était le Graal pour moi, quoi. Ça y est, enfin vraiment, pour moi, j'en revenais pas, en fait. J'en revenais pas d'avoir réussi à avoir le job dont je rêvais et dont tout le monde rêvait. J'en avais l'impression, en tout cas. Et puis, j'avais déjà une communauté sur Instagram à ce moment-là. Ouais. J'avais une petite communauté. Hein. J'avais une communauté de 10, de 15 ou 20 000 personnes. Quoi. Ouais. Donc, je postais déjà des trucs.
D'accord.
Ça, c'est un truc que j'ai toujours fait, en fait, depuis le lycée. Depuis le lycée, j'avais des blogs, j'avais un Skyblog au lycée.
Ouais, t'aimais l'édition, quoi. Fallait que tu édites.
En tout cas, mon Skyblog marchait très bien. Mm-hmm. Peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent.
Rappelle-moi le nom déjà.
C'était Sobinos. D'accord. C'est un super nom.
Et après, t'as créé un autre qui s'appelait. Attends, excuse-moi.
Après, j'avais un Blogspot qui s'appelait SBNSCL.
Oui, mais ça veut dire.
Sabina Sokol.
Mais non, mais il y avait un autre truc, non ? T'avais pas créé un autre truc aussi ?
Ah, Ask a French Girl.
Oui.
Oui, ça, voilà, alors ça, c'est, genre, j'y reviendrai
je
plus
crois,
tard.
Ouais. Ouais.
Pareil, donc SBNSCL, c'était un blog de photos, parce que j'adore la photo argentique.
Et tu fais des très belles photos, d'ailleurs.
Merci.
Ouais.
Mais vraiment, c'est ma passion. Je ne sais pas si c'est une passion, mais en tout cas, j'adore faire ça et je le fais depuis très, 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 très longtemps. Donc, ce blog-là, je l'avais en 2009-2008. Je mettais des photos argentiques et de la musique. Ouais. Bref. Mais c'était quand même pas mal vu. Et donc, quand je suis rentrée à l'officiel, j'avais déjà un Instagram avec une petite communauté qui, je pense, en fait, venait pas mal de ça, en fait.
D'accord.
Venait du fait que j'avais toujours eu une présence digitale.
Ouais.
Et donc, je faisais des petites OP par-ci, par-là.
Ouais.
Pardon.
Ouais.
Je faisais des petites OP par-ci, par-là, quoi. Vite fait.
Ok.
Enfin, ça me faisait de l'argent de poche, on va dire, en plus. Et puis bon, j'aimais bien me prêter un peu au jeu. Et donc à l'officiel, c'était très prenant, très 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 prenant comme job. Et j'ai vraiment, je m'occupais de plein de choses différentes en fait là-bas. J'écrivais, je faisais, je m'occupais du compte Instagram. Mmh. Et puis parfois des trucs un peu plus commerciaux. Mmh. Bon, bref. Donc... C'était un travail assez intense où j'ai beaucoup, beaucoup appris. Mais j'ai commencé à me dire... je commençais à me demander si je n'allais pas démissionner pour essayer de faire mon truc, en fait.
Ok. T'es resté combien de temps au final ?
Un an et demi.
Ok.
Et en gros, un jour, j'ai reçu un mail de mon agent. C'était au mois d'avril 2017. C'était un mail tout à fait...
C'était quoi comme type d'agent ? Quand tu dis un agent, c'est quoi ?
C'est mon agent qui me représente actuellement.
D'accord.
Donc c'est un agent d'image.
D'accord, ok.
C'est mon agent, en fait.
D'accord.
C'est mon agent d'image, manager, ce que tu veux.
D'accord, ok.
Et elle a une petite agence, elle est dans une petite agence boutique, comme on dit, où il représente beaucoup d'acteurs. d'acteurs, de chanteurs.
Ok.
Pas beaucoup d'influenceurs.
D'accord.
Enfin, j'aime pas ce mot. Pas beaucoup de créateurs de contenu.
Influenceur malgré toi, en fait. Influenceuse malgré toi.
Oui, voilà,
toi.
C'est ça.
Ouais, je vois.
Je crois qu'on est deux.
D'accord.
Mais sinon, le reste, c'est des talents divers et variés.
Donc, elle t'envoie un email.
Donc, elle m'a juste écrit un mail. Voilà, c'était pour voir si on pouvait se rencontrer. Mmh. Et moi, j'étais là, mais hein, quoi ? Un agent ? Pourquoi faire ? Pourquoi pas, en même temps, bon. J'avais pas du tout envisagé que je puisse intéresser un agent. Enfin, dans ma tête, c'était à mille lieues de moi, quoi.
Bah, elle était un peu visionnaire, quand même, hein. Elle avait bien senti le truc.
Ouais, ah oui, et donc, mais ma communauté avait quand même grandi depuis que j'étais entrée officielle. Je devais avoir 50 ou 60 000 followers, un truc comme ça, abonnés. mais bon, effectivement, c'est pas énorme, quoi, on va dire.
Ouais, ça commençait à exister sérieusement, ouais.
Mais bon, voilà. Et puis, je faisais des petits trucs, donc... et donc, je suis allée faire le déjeuner, ça s'est très bien passé. Et du coup, elle m'a proposé de me représenter, et j'ai accepté en me disant que voilà, que j'en attendais rien, de toute façon. Enfin, en fait, je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre, quoi.
Oui, ça marche pas, tant pis.
Exactement, quoi. ça marche pas, tant pis.
Mais t'as pas quitté ton job pour autant.
Mais j'ai pas quitté mon job, et je pensais pas... à le quitter, entre guillemets, enfin, pour ça. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est juste que je travaillais beaucoup. Du coup, j'avais les deux, en fait. Finalement, je travaillais beaucoup. Et puis, je gagnais pas beaucoup. Donc, je me disais, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer peut-être de changer.
D'accord.
Je voulais peut-être changer de job, mais je m'étais peut-être où me lancer. Mais c'était pas clair, quoi. Et puis, un jour... j'avais beaucoup, beaucoup travaillé la semaine d'avant. J'étais très fatiguée, j'étais pas de très bonne humeur. Et quand je suis arrivée...
T'as claqué ta dème, non ?
Exactement, exactement, c'est ça. Je suis arrivée un lundi matin et dans ma tête, je me suis dit, si aujourd'hui quelqu'un me fait chier, je démissionne.
Ouais.
Et ça n'a pas loupé. Quelqu'un m'a fait chier. Et c'était en fin d'après-midi. J'ai failli ne pas démissionner. Donc oui, j'ai démissionné ce jour-là. Mais sans aucune rancune ni rien du tout. Je pense juste qu'en fait...
Non, t'en pouvais plus, quoi.
Non, je pense juste qu'en fait, inconsciemment, le fait d'avoir un agent, ça m'a donné une espèce d'assurance.
Confiance en toi.
C'est ça, où je me suis dit, vas-y, c'est bon, je la tente. On verra. En fait, je pensais que j'allais démissionner en septembre, à la rentrée, et là, on était en juin. Donc voilà, c'était pas prévu comme ça et tout, mais bon, inconsciemment, ça m'a donné de la force. Sans que je me rende compte, sans que je me le dise. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et là, bah, c'était...
C'était il y a combien de temps ?
C'était en juin 2017.
Ouais.
Donc, d'accord. C'était il y a 3 ans.
Hiring for your small business ? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah, courage, honneur, bravo.
Et en fait, à partir du moment où j'ai démissionné, bah, je me suis donnée à fond, tout simplement. Je me suis donnée à fond sur mon contenu. Tout ce que j'ai appris auparavant dans mes jobs de journaliste et énormément à l'officiel, honnêtement, parce que je faisais vraiment ce que je fais pour ma page Instagram. Je le faisais pour eux, en fait, avant.
Et là, tu l'as utilisé pour toi.
Oui, c'est-à-dire communiquer avec des marques pour leur vendre un contenu éditorialisé, avec une création, direction artistique, etc. Les rencontrer.
C'est toi qui prenais ta plume et tu écrivais à des marques et tu as eu une démarche où tu es allée chercher des marques ou comment ça s'est fait ?
Non, en fait, c'est mon agent qui le fait. Hein, j'avais déjà pas mal de propositions. Mm-hmm. Mais je pense aussi que comme je m'y suis tout à coup consacrée...
Oui, tu t'y es attelée, donc forcément, ça a bougé.
Ça a bougé très vite.
Tu t'y es consacrée à 100%.
Ouais. J'ai pu aller à la Fashion Week de New York en septembre, ma première Fashion Week. Mais là, j'étais sur... Enfin, j'en pouvais plus, quoi.
T'as une carte de presse ?
Non, j'ai pas de carte
d'accord.
de presse.
Donc, tu y vas en tant qu'influenceuse ou en tant que...
J'étais invitée par une marque.
Ok, d'accord.
Et elle m'avait... Et donc...
Elle t'avait demandé de faire une sorte de reportage sur la Fashion Week ou un truc comme ça ?
En fait, ce qui se passe quand t'es créateur de contenu et que t'es invité par une marque, ils te font venir et tu dois parler de la marque en échange. Ça dépend... après, ça peut être... tout un tas de choses différentes. Parfois t'es payé, parfois non. Mmh. Parfois il y a des choses avec des magazines en collaboration, etc. Enfin voilà, franchement ça dépend. Ça peut se faire de plusieurs manières différentes. Mais bon, en gros là j'étais invitée par une marque. Ils m'avaient flyé. Ah oui, et à l'époque ils m'avaient proposé un billet donc en business.
Ouais.
Moi j'avais jamais voyagé en business et j'avais échangé mon billet business contre deux billets en éco pour pouvoir amener mon meilleur pote.
C'est trop mignon.
Mais c'était trop bien. Mais c'était tellement bien ce voyage parce que c'était... j'avais découvert ce milieu. En fait, j'ai ressenti ce que j'ai ressenti au L. C'est-à-dire les yeux de l'innocence qui découvrent quelque chose de totalement nouveau. Les Fashion Week, quoi. Le business de la Fashion Week, parce que c'est un gros business quand même.
Enfin là ça va se prendre un petit coup je pense avec le Covid, mais ouais.
Ah bah là oui clairement, ouais. mais je perds pas espoir sur le fait que ça revienne. Moi j'aimerais bien que ça revienne. J'y crois pas pour février, mais j'y crois pour septembre 2021. Quand même. Donc bon, bref, mais c'était génial quoi, cette Fashion Week. J'ai fait quelques défilés, il y avait eu quelques interviews, quelques soirées machin, et puis j'avais quand même pas mal de temps libre, c'était ma première, donc j'étais pas non plus invitée à 10 000 trucs. Donc j'avais fait plein de trucs à New York avec mon ami, c'était trop bien quoi. Et puis je croyais presque que j'allais habiter à New York.
Bah c'est une ville qui attire, hein. Moi j'ai failli plein de fois.
Ouais.
Après au quotidien je suis pas certaine que ce soit forcément évident de vivre là-bas.
Ah bah non, depuis je me suis rendu compte, depuis j'y suis retournée beaucoup de fois et je me suis rendu compte que...
Très dur.
Que non, en fait, ça me correspondrait pas du tout. Alors que je suis hyper village, casanière, dans le 11e, tu sais, je sors jamais de mon périmètre de trois rues.
Ouais, mais je te comprends, parce que ton appart est magnifique en même temps. On est chez toi et c'est vraiment j'adore. Magnifique.
C'est gentil.
Est-ce que je peux te demander, aujourd'hui, tu as, on les compte plus, mais des centaines de milliers de followers, je crois. Je sais plus, je crois.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Comment tu vis les choses? C'est-à-dire que je me suis toujours demandé comment on vit ça. Parce qu'autant on peut comprendre comment vivaient les actrices à l'époque, comment vivaient les mannequins, enfin, on commence à comprendre, tu vois, comment elles vivaient le truc, parce qu'il y en a, il y a un peu de recul sur cette époque. Mais je trouve qu'on n'a pas trop de recul sur ce que c'est que d'avoir de l'influence digitale. Alors même si t'aimes pas le terme influenceuse, c'est quand même un fait, t'en as. Parce que dès lors qu'on approche le million de followers, forcément, bah, il y a du monde qui t'écoute et qui te regarde, et forcément, tu as une influence. Et ma question, c'est de savoir, vraiment, comment tu vis ça, tu vois, au sens point positif, point négatif
Honnêtement, c'est une question assez compliquée parce qu'il n'y a pas une seule réponse. Il n'y a vraiment pas une seule réponse. Je pense qu'au tout début, quand j'ai démissionné, et du coup, ma communauté a commencé à grandir très vite, je le vivais bizarrement. Je le vivais clairement bizarrement. En fait, par exemple, je remarquais... Parfois, le regard, on croise un regard d'une personne qui nous a reconnus dans la rue et en fait, ça se ressent direct.
C'est clair.
Ça se ressent direct. Donc ça, par exemple, je me disais, oula.
Ouais.
Et oui, ce qu'il faut savoir, c'est que mon Skyblog, quand j'étais au lycée, était hyper, hyper vu. Et puis parfois, et ça m'arrivait très souvent de me faire reconnaître dans la rue, et très souvent de recevoir des messages genre « je t'ai vu là, là, là », ou même qu'on me crie mon nom dans la rue, parce que j'habitais à Strasbourg, donc c'était une petite ville et tout. Ça m'avait stressée et ça m'avait oppressée à l'époque, genre vraiment fort. Donc je l'ai supprimée du jour au lendemain.
Ok.
Donc déjà, voilà. Déjà, en fait, j'avais déjà eu cette expérience-là. En fait, je m'étais sentie un peu genre télé-réalité, tu vois.
Oui, je comprends.
En tant qu'ado.
Ouais.
Et donc là, au tout début, j'étais un peu là, bon, le côté, en fait, j'arrive vraiment à dissocier mon Instagram de ma vraie vie.
Oui.
Donc pour moi, je m'étais toujours dit, mon Instagram, c'est une page internet avec des images que je maîtrise entièrement et qui est dissociée de ma vraie vie parce que j'y montre pas ma vie perso, en fait.
Ouais.
Et j'y montre pas ma vraie personnalité parce que je m'exprime pas beaucoup. À part via les images. dès que ça rentrait dans ma vraie vie réelle, oula, genre j'étais en mode, oula, oppression. Et ça, c'était au début. Et maintenant, je le vis plus trop comme ça, franchement. Maintenant, déjà, je me suis habituée à ce sentiment-là. En fait, je me rends compte que j'avais pas très confiance en moi. J'avais pas confiance en moi. Enfin, j'ai toujours pas énormément confiance en moi. Mais vraiment, mais c'était plus handicapant. C'était plus handicapant. Et donc, c'est pour ça que j'osais pas parler. Et c'est pour ça que j'avais peur quand je croisais des gens dans la rue.
D'accord.
Ça me faisait peur, en fait. J'avais peur de les décevoir.
Bah, c'était presque un abri, en fait, de ce que tu es en train de me décrire. Enfin, un abri, une sorte de... ouais, c'est ça, une sorte d'abri ou d'image, en fait, qui transperce pas chez toi, quoi. Enfin, qui arrive pas à ton intimité.
C'est ça. Et vraiment, j'avais peur de décevoir les gens. C'est-à-dire que j'avais peur qu'ils me trouvent bête ou moche ou j'en sais rien. Enfin, vraiment des trucs... bon, voilà.
Non, je rassure tout le monde, t'es plus belle au naturel, même encore qu'en photo.
Ça, c'est gentil.
T'es canon en photo, mais t'es aussi canon en vrai.
Mais vraiment, enfin, bon, en tout cas, c'était... Et maintenant, bah, franchement, ça va quand même mieux. Après, c'est pas une peur qui a totalement disparu non plus.
Mais tu vis avec.
Mais déjà, ouais. Je vis complètement avec. Et surtout, j'adore, en fait, parler avec des gens qui m'écrivent ou quand on se croise ou qui viennent me parler. Je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça vraiment sympa.
Bah, t'es journaliste dans l'âme, donc t'as besoin d'échanges, t'as besoin de d'interaction.
Et puis je suis hyper curieuse de savoir qui sont les gens qui me suivent.
Ah ouais.
Bah ouais, je suis curieuse en fait. J'ai envie de voir comment ils sont, comment ils s'habillent, tout ça. Enfin, leur personnalité, je trouve ça vraiment intéressant en fait. Je sais pas, je trouve que ça en dit beaucoup finalement.
Ouais.
En fait, je préfère mille fois croiser quelqu'un dans la vie et que cette personne vienne me parler ou qu'il m'écrive un vrai message plutôt que juste avoir l'impression d'un regard ou encore pire, ne rien avoir capté et recevoir un message après, genre je t'ai croisé à tel endroit, quoi.
C'est clair.
Là, tu te sens un peu mal, quoi.
D'autant que par les temps qui courent, le virtuel, le réel... Enfin, moi, c'est un peu en partie pour ça que j'ai appelé le podcast réel. C'est qu'au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol du virtuel. C'est-à-dire des rapports qui étaient complètement faussés par un lien. Enfin, c'est quand même assez spécial. Mais moi, j'ai pas ta communauté. Mais parfois, je parle avec des gens longuement, profondément, que je n'ai jamais rencontrés. C'est-à-dire, et ça, je trouve que c'est un truc... c'est quand même très particulier. Alors, je dis pas que c'est mal. Mais je dis que c'est très particulier.
C'est particulier. Mais moi, par exemple, ça, typiquement, c'est un truc que j'adore. Avoir des conversations.
Mais parce qu'en fait, c'est pas le même. C'est pour ça que je dis que c'est particulier au sens où c'est inédit, quoi.
Oui, enfin, c'est inédit, totalement.
C'est vraiment un truc. Voilà, c'est une autre catégorie de relation, quoi.
Totalement. En tous les cas, l'interaction. Mais je trouve c'est vraiment une partie que je trouve très sympa. Très sympa.
C'est pas toi qui gères ton compte Insta, si ?
Ah, si, si.
Ah ouais ?
Ah oui, oui.
En direct.
Ah oui, oui.
Oui, parce qu'alors, attends. Non, moi, je t'ai écrit. Parce qu'il y a ton contact mail, je crois. Dans
oui,
ton...
ouais. par mail. Ah oui, ouais, par contre, c'est vrai que par message.
Message Insta, tu dois en recevoir 250 000, non ?
J'en reçois beaucoup, donc oui, c'est sûr que c'est. Non, c'est hyper compliqué pour moi de répondre aux messages. C'est pour ça que j'ai mis mon mail, d'ailleurs.
D'accord.
Parce qu'au moins, bon, les mails, je sais que voilà, je les traite.
Alors, t'as 32 ans, tu l'as dit en intro. Qu'est-ce que tu recommanderais à une jeune femme aujourd'hui ? Tu vois qu'il y a. Je sais pas, moi. J'ai même une jeune ado ou. Parce que je suis un peu perturbée, moi, par les jeunes filles qui ont 14-15 ans aujourd'hui. Alors, elles m'intriguent tout autant qu'elles m'inquiètent, ou je les admire tout autant qu'elles m'intriguent, je sais pas. Mais je trouve qu'elles ont sont hyper mûres avant l'heure. C'est-à-dire que moi, à 14 ans, j'étais un vrai bébé. Et là, elles ont accès à une féminité grandeur nature parce que elles se mettent en scène, elles font des trucs de voilà, que moi je faisais à 25 ans. Honnêtement, et là, je parle vraiment des femmes, les garçons, c'est autre chose, mais. Je sais pas, hein, quel regard juste tu portes, sans pour autant parler de conseils, mais quel regard tu portes sur la jeune, très jeune génération de jeunes filles. Déjà, qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Et après, quel conseil tu leur donnerais? Parce que c'est vrai que c'est. Moi, je lis des choses où ça peut faire perdre pied, en fait, tu vois, ces réseaux sociaux, ce besoin de se mettre en scène en permanence, toujours au top. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu déstabilisant pour les jeunes filles. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses ?
Déjà, moi, je pense qu'il faut pas essayer de lutter contre ça. Je pense que quand on avait 14-15 ans, moi, tu dis que t'étais un bébé, moi aussi. Hein, quand je pensais à moi à 14-15 ans, je sais que j'étais un vrai bébé. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que nos parents ou nos grands-parents, ils se disaient aussi, oh là là, ils grandissent vite. Moi, à 14 ans, j'étais vraiment un gamin, tu vois.
Ouais.
Et c'est un peu le cas parce que, enfin, je sais pas toi, mais moi, à 14 ans, il y avait déjà Internet, il y avait déjà les téléphones, il y avait déjà plein de choses que eux n'avaient pas à nos âges.
Ouais.
Donc pour moi, c'est un peu une question générationnelle. Donc de toute façon, je pense que ce serait vraiment un coup d'épée dans l'eau que d'essayer de lutter contre cette évolution parce que cette évolution, elle est inévitable en fait. Donc il faut juste essayer de l'appréhender de manière avec du recul et avec de l'intelligence, c'est-à-dire sans peur, mais en expliquant les dérives potentielles. Et les dérives potentielles, c'est comme tu l'as dit, il y a la comparaison.
Donc le mal-être.
La comparaison, c'est très dangereux.
Ouais.
C'est très dur. Et honnêtement, même pour nous tous, hein, je pense, même pour moi... j'aime pas, enfin c'est dur, alors qu'en plus je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie. Par exemple, je me compare jamais à mes potes, à mes amis, mes copines, etc. S'il leur arrive un super truc, je suis vraiment contente en fait. Jamais de la vie je me compare, il y a que sur Internet que je me compare.
Bah, c'est le rapport à l'image,
c'est très et je me force, j'essaye de garder la tête froide et de prendre du recul pour pas le faire. Et ça, c'est une chose, je pense, qu'il faut expliquer aux jeunes filles qui sont sur Internet. Il faut faire attention à cette dérive-là. Mais voilà, si elles grandissent vite et qu'elles veulent se mettre en femme et machin, c'est un désir qu'ont toutes les petites filles, finalement. C'est pas nouveau, quoi.
C'est clair.
C'est pas né en 2020.
C'est clair.
Donc moi, j'essaierai pas de lutter contre ça.
Une autre question, c'est déjà une journée type, si tu veux nous en parler. Enfin, voilà... De quoi sont faites tes journées, grosso modo, hein, pas à la minute près. Et après, si tu as des habitudes, c'est toujours deux questions en une, j'ai cette grande spécialité de poser toujours deux questions en une, mais si tu as des habitudes, sportives, si tu médites, si tu fais du yoga, tu vois.
Je fais du sport avec deux coachs. Jusqu'à il y a peu de temps, j'avais un coach.
Ouais.
J'étais pas du tout sportive en fait avant. J'en faisais 3 mois à fond et puis j'arrêtais et tout. Et je mangeais n'importe quoi. J'avais pris un peu de poids. Je me sentais pas très bien. Et du coup, j'ai essayé de reprendre ma vie en main en faisant du sport et en mangeant mieux.
Mais ça se voit, je te trouve très musclée. Hein.
Ah bah merci.
C'est fou.
Bah écoute, je sais pas, j'essaie de faire du sport 2 fois par semaine.
Ouais.
Et je fais
quoi comme
fois,
sport?
Bah du coup, je fais une fois avec donc mon coach qui est en bas de chez moi, que je vois depuis 3 ans. C'est du, tu vois, des exercices de gym, quoi, genre muscu, tout ça. Enfin, vraiment des exercices pas très intéressants, mais pour rester bien forte, quoi. Et là, j'ai commencé depuis avant les vacances des cours de bar et un peu de danse. Et génial. J'adore.
C'est quoi comme danse?
De danse classique.
Ok.
Avec Julie au studio, ça s'appelle The Studio Paris. Elle vient de New York, elle s'est lancée à Paris son propre business.
D'accord.
Et elle est danseuse à la base et voilà. Et c'est trop bien, c'est à l'américaine, donc ça brûle très fort. Mais okay. Franchement, j'adore.
Et du coup, tes journées type, en fait, comment t'occupes tes journées aujourd'hui?
Eh ben, en fait, il y a pas trop de règles, mais disons que, par exemple, j'ai pas mal de rendez-vous pro quand même. Donc, bon, en gros, je me lève, je prends mon petit-déj parce que sinon, je peux pas. Et je suis obligée de prendre un gros petit-déj tous les matins. Et même si je dois me lever tôt, je préfère me lever plus tôt pour pouvoir prendre mon petit-déj.
Très bien.
Ensuite, je fais mes mails. C'est pas très excitant. Une journée type. Hein.
Ouais.
Ensuite, généralement, je déjeune chez moi ou j'ai peut-être un déj pro. Et puis l'après-midi, tu vois, là, on est à l'après-midi. Donc, podcast. Ensuite, quand tu vas partir, j'ai des photos à faire. Donc, je vais retrouver mon assistante qui va me les faire. Je travaille sur divers projets. J'ai une collection capsule qui va sortir bientôt de vêtements, une collection capsule de bijoux. Donc, je les ai...
C'est des collaborations?
Ouais.
D'accord.
Je les ai conceptualisées. J'aime pas dire dessinées parce que même si j'ai fait des dessins moches, c'est pas moi qui fais le vrai dessin, tu vois.
Ok, donc, mais t'inspires le truc, enfin tu donnes l'impulsion artistique, quoi.
Ouais, en tous les cas, conceptualiser le produit D'accord. et la collection, fait le shooting.
Et c'est avec des marques existantes ?
Oui.
D'accord.
Et je travaille sur le lancement de ma marque.
Non, génial.
Ouais, c'est en cours, c'est en cours.
C'est top, ça. Donc, une marque de quoi ?
De vêtements basiques.
Génial.
Ah, c'est de top, vêtements ça. Basiques.
Félicitations.
Bah, c'est pas fait encore, mais oui, en tout cas, ça devrait sortir l'année prochaine.
Génial. Félicitations, c'est top.
Donc, je suis trop contente. Donc, en fait, mes journées, c'est un peu ça, tu vois. C'est, un peu,
c'est chargé. Du coup, t'as du boulot.
Ouais, quand même, ouais. J'ai une petite rubrique pour le prescripteur.
Ouais.
Donc, voilà, j'écris pour ça. Bon, après, il y a les photos à faire pour ça. Enfin, franchement, en fait, c'est, tu vois, c'est pas vraiment type.
C'est éclectique. Ouais. C'est varié.
Mais j'essaye quand même de me caler mes cours de sport.
T'as bien raison.
Ouais, parce que c'est important de rester en forme. Un esprit sain dans un corps sain, on va dire.
T'as bien raison. Écoute, je pose tout le temps la même question à mes invités. Quelle vision tu portes ? Et c'est encore plus intéressant avec ta vision, même si je sais que tu n'y as pas vécu beaucoup, mais bon, t'as quand même une double culture. Quelle vision tu as aujourd'hui de la France, au sens large du terme ? Tu vois, genre... c'était pas obligé de répondre comme si t'étais première ministre, hein, mais tu vois, pour vraiment le plus simplement du
français.
Monde. Voilà, je vous ai compris. Non, c'est plus, je sais pas, qu'est-ce que tu ressens, tu vois, enfin, tout simplement.
Alors, pas, je sais pas...
C'est hyper large, hein, comme
ouais,
question.
Ouais, c'est hyper large. Bah, déjà, de base, moi, ce que je ressens par rapport à la France, c'est que j'adore la France. Premièrement, c'est mon pays. Honnêtement, hein, je me sens plus française que roumaine. Parce que j'ai jamais vécu en Roumanie. Enfin, ouais. Ça compte pas, quoi. Quand on est bébé, on s'en rappelle pas. J'ai fait toute ma scolarité en France. Ma culture est fondamentalement française, que ce soit ma culture générale, ma façon de vivre, ma façon d'être, mon cercle social. Enfin, voilà, quoi. Genre, tout est français chez moi. Pas mes parents, pas mes grands-parents, mais voilà. C'est dur de porter un regard critique. Enfin, je sais pas, peut-être que j'ai toujours ce truc inconscient où, genre, pour moi, c'est la terre d'accueil, etc. Déjà, sur un côté purement pragmatique et géographique, je trouve qu'on a énormément de chance en France d'avoir des régions aussi variées culturellement. Et ça, c'est trop bien, quoi, en fait.
C'est clair.
Au sein d'un même pays, on a accès à beaucoup de choses différentes. Du ski, de la montagne, de la mer Méditerranée, la Bretagne, l'Atlantique, l'Alsace.
C'est clair.
Bref.
C'est varié.
Pour ça, c'est super. De l'extérieur, je comprends que ce soit un pays qui fasse rêver, en fait. Parce que je pense que c'est un pays fondamentalement, avec une culture fondamentalement hédoniste et qui aime la beauté. Donc, c'est quand même. C'est quand même trop bien de vivre un pays qui privilégie le beau.
Ah, c'est sûr.
Non, mais je sais pas, parce que qu'il y en a qui s'en... Enfin, je pense que c'est pas une priorité pour tout le monde. Et, mais nous, on l'a en France. Et je pense que c'est pour ça que la France fait autant rêver. Après, il y a évidemment plein de choses qui pourraient être améliorées. Que ce soit... sur la manière dont on traite les migrants, par exemple, les jeunes migrants qui arrivent en France... Je dis ça parce que je vais dans une association qui aide les jeunes mineurs isolés étrangers qui n'ont pas qui ne sont pas encore reconnus comme mineurs par l'État français. En fait, ce que je trouve bien en France aussi, c'est que c'est un pays quand même historiquement fondamentalement social. Voilà, même s'il y a énormément de choses à améliorer, même s'il y a énormément de défauts, quand même, quand on compare avec d'autres. La France, c'est quand même un pays fondamentalement social et qui essaye, même s'ils ne réussissent pas toujours, d'aider un peu tout le monde.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, ça, je trouve ça assez beau.
Pareil, c'est toujours des questions qui reviennent. Un coup de cœur et un coup de gueule. Tu n'es pas obligé d'en avoir. Il y a des gens qui n'en ont pas. Donc, rassure-toi. Mais coup de cœur, ça peut être pièce de théâtre, bouquin... film, rencontre, artiste, peu importe. Et puis coup de gueule, pareil, hein, c'est ce que tu veux, quoi. Un truc qui t'a énervé dans l'actualité, un truc qui t'énerve au quotidien, une attitude qui te déplaît.
Alors, un coup de cœur. Bon, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais je vais dire Léna Situation. Léna Situation.
C'est-à-dire ?
Tu vois pas qui c'est ?
Non.
C'est une youtubeuse.
Oh, ah oui, excuse-moi, j'y étais pas du tout. Pardon, ok. Excuse-moi, je le voyais en deux mots. Non, mais oui, j'en ai entendu parler. Ok.
En fait, je la trouve trop... Enfin, je la connais pas du tout, mais je la trouve trop mignonne, cette fille. En tout cas, de ce qu'elle montre, elle a l'air hyper mature pour son âge, justement.
Je sais même pas, elle a quel âge ?
22 ans.
Ouais.
Et elle a l'air d'avoir des très bonnes valeurs bien ancrées, quoi, sur Terre. Mmh, mmh. Et c'est une boss girl. C'est vraiment une entrepreneuse digitale, féminine. Voilà. Enfin, pour moi, je trouve ça chouette que, parce que je crois qu'elle est suivie par beaucoup de jeunes, de très jeunes. Et je trouve ça chouette que les jeunes, ils regardent ce genre de personnes-là en les prenant comme modèles, parce que franchement, pour
c'est
le
clair.
Coup,
c'est clair.
Elle a pas mal à apporter. Donc, je trouve ça très cool. Donc, coup de cœur.
Okay.
Et coup de gueule, bah, la cancel culture, quoi. La cancel culture, ouais. Je déteste.
Comment tu l'as définie ?
C'est nuancé. Parce que je pense qu'il y a du bon. Il peut y avoir du bon. Par exemple, sur les hashtags « balance ton rappeur » ou « balance ton agresseur », on va dire, en général. Là, je pense que ça peut avoir du bon, finalement. Dans le sens où peut-être que la menace d'un courroux généralisé... et d'être un paria pourrait faire réfléchir des personnes avant de passer à l'acte. Mmh. C'est bête et méchant, hein, mais voilà. Honnêtement, je pense que ça fait plus peur qu'une amende. Voilà. Mais à côté de ça, je trouve que, en fait, c'est comme si on n'avait plus le droit à un procès. On skip la case procès et on passe directement au jugement, et c'est un jugement moral. Donné par le peuple. Et c'est pas toujours une bonne chose. Je trouve qu'il y a des choses, par exemple, je sais pas moi, je vais donner un exemple. Il y a un compte très connu, un compte Instagram très connu, qui expose tout un tas de choses, et notamment dans la mode. J'ai pas envie de dire le nom, mais bon, en gros, ils exposent des créateurs qui se copient les uns les autres. Ils exposent maintenant ils passent du racisme, plein de choses comme ça. Bon, ok, pourquoi pas, enfin, si ça peut aider certains, pourquoi pas. Mais ils ont aussi pris en grippe certaines personnes, par exemple les Kardashians. Ils détestent les Kardashians, ils détestent certaines influenceuses, etc., et ils publient les choses sur elles. Genre, Machine est partie aux Hamptons alors qu'elle avait un énorme appartement à New York. Elle est partie alors qu'il y a le Covid. Et la personne, ils le font en connaissance de cause de ce qui va arriver à cette personne, parce qu'ils ont plusieurs millions de personnes qui sont abonnées à leur compte. Et ils savent très bien qu'en publiant ça, la personne va se prendre des insultes et voire des menaces. Et ça, je trouve ça pas bien, en fait. Ok, c'est pas génial de faire ça, on est bien d'accord.
Mais
est-ce que ça mérite
une délation,
et est-ce que ça mérite de se faire lapider en public ?
Bah, c'est un site, en fait, ça réveille les premiers instincts basiques et en général pas les meilleurs instincts humains,
ça.
À savoir.
Et ça, je trouve ça vraiment pernicieux.
Ouais. Bah, bien sûr. Mais c'est pernicieux, même, je veux dire, il n'y a même pas besoin d'aller sur Instagram pour le voir. Hein. C'est quasiment tous les jours que tu peux le constater. Donc.
Totalement.
Malheureusement, c'est dès lors. Enfin, pour moi, c'est des gens qui ne savent pas utiliser leur pouvoir à bon escient. Enfin, en gros, t'as une communauté et tu la tournes négativement, quoi.
Exactement. Et en fait, ça m'énerve parce que ils savent très bien ce qu'ils font.
Bien sûr.
Ils le savent. Ouais, et je trouve ça, honnêtement, je vais peut-être paraître bête, mais je trouve ça profondément méchant et profondément mauvais. Même si on peut pas voir la gueule d'une personne.
En fait, c'est les instincts guerriers, pense. Tu sais, on se fait plus la guerre comme avant. On va plus au fight sur un combat sur un ring de boxe et tout. Donc, je crois qu'il y a une forme de guérilla psychologique. Bon, après, ça existait depuis tout le temps, hein, malheureusement. Le racolage, tous ces trucs-là, ça a toujours existé. Mais c'est vrai que là, je pense qu'il y a aussi une sorte de frustration. Qu'il y ait au fait qu'il n'y ait plus de guerre comme avant, quoi. Donc les gens, ils se font la guerre autrement, malheureusement, c'est comme ça.
Et puis, bah, c'est des juges de la morale.
Ouais.
Et...
C'est ça, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la justice n'a plus... Enfin, la justice au sens propre du terme...
Mais elle n'a plus de place.
Bah non, parce que les gens jugent avant... Enfin, ça, on l'a vu des milliers de fois hein, récemment. Mais...
Et je trouve ça tellement dur de s'ériger en juge de la morale. Et je vois pas à quel moment ça se justifie, en fait. Enfin, à moins d'être soi-même irréprochable,
les
chose qui n'existe pas.
Même les juges ne sont pas irréprochables.
Voilà. Je veux dire, même Jésus n'était pas là à faire son juge de la morale. Donc non, ça c'est mon coup de gueule, je supporte pas, ouais.
Est-ce que tu as quelque chose à dire parce que malgré tout, bon, bah, le temps passe vite avec toi, Sabina, mais est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que, je sais pas, tu as envie de faire une annonce particulière, un truc
J'ai pas forcément d'annonce particulière à faire parce que je pense que j'en ai déjà dit pas mal.
J'ai des scoops.
mais par contre, non, j'espère que ce podcast, c'est le début. C'est un début pour moi, pour avoir une voix, en fait, une vraie voix.
Mais je
une
te
vraie
le souhaite.
Voix autre que les photos.
Mais je te le souhaite.
Et j'espère que ça plaira.
Mais c'est vraiment, je te dis, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis venue à toi, c'est que je me suis instinctivement dit, je sais pas, au feeling, cette jeune femme a des choses à raconter qu'on ne voit pas à travers une photo. Voilà ce que je m'étais dit. Bah génial, merci beaucoup Sabina, c'est top.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.